VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 29 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations à Conakry, la capitale.
En République centrafricaine, le président destitué de l'Assemblée nationale, Karim Mekasua, appelle au calme.
Au Gabon, la présidence précise que l'hospitalisation d'Ali Bongo à Riyad est due à un malaise.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 81 ans, sera le candidat du FLN, son parti à la présidentielle d'avril 2019.
Ici, aux États-Unis, les drapeaux sont en berne pendant 3 jours après le massacre de samedi dans une synagogue de Pittsburgh.
Au Brésil, élection du candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, à la présidence.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Guinée, l'opposition a durci sa position en réaction à l'attaque mardi du véhicule de son chef, Sélude Alain Diallo, alors qu'il s'apprêtait à sortir pour une marche interdite par les autorités locales. Les opposants au régime du président Alpha Condé appellent à de nouvelles manifestations à Conakry. Le point avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Une journée ville morte lundi, suivie d'une marche pacifique mardi, l'opposition guinéenne parle maintenant de résistance. Une résistance à l'arrogance du pouvoir, s'indigne le chef de file de l'opposition, Sélude Alain Diallo, se dit choqué et accuse son adversaire politique d'avoir assassiné des citoyens guinéens et violé les lois et les accords. Devant ses militants, samedi à Conakry, Sélude Alain Diallo a annoncé qu'il ne négociera plus avec le régime d'Alpha Condé. L'attaque contre son véhicule a été condamnée par la classe politique guinéenne et par certaines organisations de la société civile. Le procureur, près la cour d'appel de Conakry, a ordonné l'ouverture d'une enquête aux fins de situer les responsabilités. Le malaise politique en Guinée s'enlise de plus en plus et les opposants à Alpha Condé ont bien des réclamations à scander lors de ces nouvelles manifestations. L'installation sélective des exécutifs communaux, la lumière sur les dizaines de morts par balle lors des manifestations politiques, mais aussi la libération des militants arrêtés, voilà qui pourrait justifier des manifestations selon l'opposition guinéenne. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, 59 ans, est hospitalisé depuis mercredi suite à un malaise à Riyad, en Arabie Saoudite, où il était venu assister à un forum économique. Selon son porte-parole, M. Ngouoni, les médecins ont diagnostiqué une fatigue sévère due à une très forte activité ces derniers mois. Il a précisé qu'il a été prescrit à M. Bongo un repos médical.
En République centrafricaine, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Karim Mekasua, destitué vendredi, a appelé au calme hier. Dans un discours prononcé dans le quartier PK5 de Bangui, qui abrite la majorité des musulmans de la capitale, il a qualifié sa destitution de coup de force contre la Constitution. Bagasikoura.
Devant les habitants du PK5, poumon économique de la capitale et souvent théâtre de violences, Karim Mekasua a appelé dimanche au calme. Mekasua a dénoncé ceux qui ont voulu confessionnaliser le débat, en soulignant néanmoins que 38 des 41 députés qui avaient voté sa destitution étaient chrétiens. Il a indiqué que 2 procédures pour contester sa destitution étaient en cours au tribunal de grande instance et à la cour constitutionnelle. Le combat continue, mais c'est un combat judiciaire, a-t-il déclaré. Vendredi soir, le président de l'Assemblée nationale, Karim Mekasua, député musulman du PK5, avait été destitué par les députés centrafricains. Dans la foulée de sa destitution, des tirs épars avaient été entendus au PK5 de Bangui et dans les villes du centre et de l'est, Bambari et Bria.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika, qui est âgé de 81 ans, sera le candidat du FLN, son parti, à la présidentielle en avril 2019. L'information a été donnée hier soir par Djamel Ould Abbès, le patron du Front de Libération Nationale. Détail avec Jean-Roger Bion.
Le secrétaire général du FLN a fait cette déclaration lors d'une cérémonie en l'honneur du nouveau chef du groupe parlementaire du parti, Mohamed Bouabdallah. Cette candidature est une revendication de tous les cadres militants du FLN sur l'ensemble du territoire national, a dit Ould Abès, cité par l'agence APS. Le comité central, instance dirigeante du FLN, se réunira prochainement pour officialiser cette candidature, a déclaré à l'AFP le chef de cabinet de M. Ould Abès, Nadi Boulegroun. Pressé depuis 6 mois par son camp de briguer un 5e mandat, le chef de l'État, diminué par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral, AVC, dont il a été victime en 2013, ne s'est toujours pas exprimé à ce sujet, pas plus que son entourage. Chef de l'État depuis 1999 et détenteur du record de longévité à la tête de l'Algérie, M. Bouteflika ne fait que de rares apparitions sur un fauteuil roulant et ne s'exprime plus en public depuis son AVC. Sa santé a fait l'objet de spéculations récurrentes. L'incertitude autour d'une nouvelle candidature du chef de l'État a monopolisé ces derniers mois le débat politique en Algérie, mais semble dans l'immédiat susciter moins d'opposition affichée qu'en 2014, notamment au sein du sérail politique et militaire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a ordonné la mise en berne des drapeaux américains sur les bâtiments publics jusqu'au 31 octobre en signe de respect solennel pour les victimes du massacre de samedi dans une synagogue de Pittsburgh en Pennsylvanie. Les drapeaux seront aussi en berne sur toutes les ambassades, tous les consulats et les installations militaires et navires de la marine américaine. Les Américains ont découvert dimanche l'identité des 11 fidèles abattus la veille dans cette synagogue, dont la pire attaque antisémite jamais perpétré aux États-Unis. Nous retrouvons Bagassi Koura.
3 femmes et 8 hommes, quasiment tous âgés de plus de 60 ans, ont succombé sous les balles de Robert Bowers, un homme blanc de 46 ans qui a, selon son acte d'accusation, expliqué après son arrestation, je cite, « Je voulais juste tuer des Juifs ». Drapeau en berne, veillée d'hommage à Pittsburgh et ailleurs, cérémonie œcuménique, la communauté juive des États-Unis, la plus importante en dehors d'Israël, a reçu le soutien de tout le pays, mais aussi du pape, de Berlin ou Paris. Armée de 3 pistolets Glock et d'un fusil d'assaut semi-automatique AR-15, Robert Bowers a sémé la mort samedi dans la synagogue Tree of Life, en plein cœur du quartier juif de Pittsburgh, qui abritait plusieurs offices religieux en ce jour de Shabbat, le repos hebdomadaire juif. David et Cécile Rosenthal, des frères âgés de 54 et 59 ans, qui vivaient ensemble dans un centre pour adultes ayant des déficiences intellectuelles, sont tombés sous les balles de Robert Bowers. Les 9 autres victimes avaient plus de 65 ans. La plus âgée, Rose Malinger, une résidente du quartier, avait même 97 ans. Le médecin légiste qui procède à des autopsies dans le respect des lois civiles et religieuses espérait hier pouvoir rendre les premiers corps à leur famille dans la journée.
Première comparution devant le juge aujourd'hui en Floride pour César Sayoc, un partisan fanatique de Donald Trump, accusé d'avoir envoyé au moins 13 colis piégés à des personnalités démocrates et autres critiques du président américain, dont la chaîne CNN. Il a été arrêté vendredi.
Au Brésil, élection du premier président d'extrême droite plus de 30 ans après la fin de la dictature. Jair Bolsonaro, qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2019, a reçu dimanche un mandat clair avec plus de 55% des voix devant le candidat de gauche Fernando Haddad, 45%, à l'issue d'une campagne qui a coupé en deux le plus grand pays d'Amérique latine. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Bolsonaro succède pour 4 ans au conservateur Michel Temer, qui se retire sur un taux d'impopularité historique et va lui laisser un pays mal en point et en plein doute. Ce député arrive à la tête d'un pays de 208 millions d'habitants sans aucune expérience du pouvoir comme ses futurs ministres. Le candidat Bolsonaro a dit vouloir gouverner pour la majorité, pas pour la minorité. Dans sa ligne de mire pêle-mêle, les Noirs, les femmes, les membres de la communauté LGBT, mais aussi les militants de gauche, les Indiens, les membres du mouvement paysan des sans-terres et d'ONG, les défenseurs de l'environnement et les journalistes. Les plus optimistes pensent que cet admirateur de la dictature militaire abandonnera sa rhétorique de campagne à l'épreuve du pouvoir. Beaucoup craignent que la victoire, combinée au discours belliqueux de leur leader, ne décomplexe et déchaîne les franges les plus extrémistes et primaires de son électorat. Le président des États-Unis, Donald Trump, a appelé dimanche soir le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, pour le féliciter pour sa victoire à la présidentielle au Brésil, a indiqué la Maison-Blanche.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jean-Roger Bion.
Les présidents Mouhamadou Bouhari et Patrice Talon ont inauguré un point de passage à la frontière entre le Bénin et le sud-ouest du Nigeria. Le site est construit sur 17 hectares pour plus de 18 millions d'euros. Il est équipé de scanners ultramodernes pour détecter les marchandises illicites. La CEDEAO veut booster le commerce, lutter contre les fraudes, les trafics et la corruption. L'Union européenne finance la CEDEAO à hauteur de 64 millions d'euros pour créer 7 infrastructures similaires sur le trajet allant du Nigeria à la Côte d'Ivoire, entre le Ghana et le Burkina Faso et entre la Guinée et le Mali. La BAD a accordé au Malawi un financement de 15 millions de dollars pour améliorer l'accès durable à des services d'approvisionnement en eau potable et en assainissement. Ce projet va profiter à 60 000 résidents de la ville portuaire de Nkatabé et ses environs, ainsi qu'à 220 000 autres personnes qui dépendent des services offerts par la ville. L'accès des résidents de Nkatabé à l'eau potable passera de 37 % à 90 %. Le gouvernement sud-africain a réussi à mobiliser près de 20 milliards de dollars d'investissement sous forme d'engagement. C'était en marge de la conférence sur les investissements qui a eu lieu à Johannesburg entre le 25 et 27 octobre. Les secteurs automobiles, pharmaceutiques et des technologies prendront plus de 3,5 milliards de dollars. Ces nouveaux financements s'ajoute aux 35 milliards de dollars déjà annoncés pour le pays par la Chine, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Le président Cyril Ramaphosa s'est donné l'objectif d'attirer 100 milliards de dollars d'investissement sur les 5 prochaines années.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec un week-end de classico en Europe.
Oui, et en France, Paris reste invaincu devant Marseille grâce à Mbappé. Entré en jeu en deuxième période, le club de la capitale est allé battre l'OM 2-0 en clôture de la 10e journée de la Ligue 1 pour conforter sa place de leader. Addition encore plus salée en Espagne où le Barça sans Lionel Messi humilie le Real Madrid 5-1 lors de la 10e journée de la Liga avec notamment un triplé de Luis Suarez. Barcelone prend le large en tête du championnat avec 7 points d'avance sur le Real Madrid classé 9e.
Football toujours avec le lancement de la Ligue 1 du Bénin, saison 2018-2019. C'était à Parakou, dans le nord du pays.
Effectivement, Idrissa, et c'était à travers la rencontre Buff-Aspac jouée au stade Omnisport de Parakou. Un match soldé sur un score nul de 1-0. Un bon score pour le club portugais, selon son entraîneur Ibrahim Abdou.
Nous sommes dans ce que nous cherchons, soit prendre les 3 points, à 2 points, chercher le 1 point et partir. Mais un bon match, surtout après avoir encaissé ce but. Dans les 19 minutes, revenu au score, il faut avoir le mental pour le faire ici à Parakou. Sur ce point, vraiment, je félicite les joueurs.
Côté Buffalo, le match a été difficile vu l'adversaire qui est en face. L'entraîneur adjoint des champions en titre, Adam Taïrou, rassure tout de même.
Les débuts sont difficiles. Et face à une équipe d'Aspac, on se cherche. Quand on dit Buffalo Aspac, c'est un bon match. Aspac, c'est un bon match. C'est ce que tout le monde a remarqué ici. Mais moi, je tiens à remercier les enfants parce qu'il y a beaucoup de nouveaux parmi nous. Et qu'on a fait avec, les anciens sont partis, on ne doit pas rester sans participer, on s'est engagé et ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas mal déjà, on va continuer à travailler.
Les autres rencontres de cette première journée se joueront sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche prochain. A noter que 19 clubs vont prendre part au championnat cette saison.
Cyclisme avec la 3e étape du Tour du Faso couru hier.
Et c'est le Burkinabé Seydou Bamogo qui a remporté cette étape entre Bolgantanga et Pau, longue de 75 km, devant les Belges Dieter Bourvy et Joe Kalleu. Il devient du coup nouveau leader au classement général. La 4e étape est pour aujourd'hui entre Lai et Waïgouya, d'une distance de 148 km.
Handball, épilogue hier de la Coupe d'Afrique des clubs champions à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Oui, et chez les hommes, Al Ahly est sacré champion. Victoire devant le Zamalek 27-25. Une finale angolaise au niveau des dames. Et c'est le Primeiro do Agosto qui est sorti vainqueur 25-21 devant Petro de Luanda. Et puis, du basketball pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA.
Golden State a battu Brooklyn 120-114. Utah a battu Dallas 113-104. Oklahoma City a eu raison de Phoenix 117-110. Et Washington massacré par LA Clippers 136-104.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, la plateforme syndicale revendicative suspend sa grève générale qui a paralysé les secteurs sanitaires et éducatifs depuis plus de 5 mois. C'est une conséquence de la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement en vue de résoudre la crise sociale que traverse le pays. Les enfants tchadiens vont donc pouvoir reprendre les cours dans les établissements publics dès ce lundi, nous dit de N'Djamena André Kodmadjingar, correspondant de VO Afrique.
Dans ce document, le gouvernement s'engage à consentir 15% sur la coupe des augmentations générales spécifiques AGS à compter de janvier 2019, ramenant ainsi les AGS à 65%. Un comité paritaire gouvernement et plateforme syndicale sera mis sur pied dans un délai n'excédant pas une semaine afin d'assainir les fichiers de la solde sur une période n'excédant pas 45 jours et la poursuite de l'audit des diplômes en collaboration avec le cabinet en charge du dossier. L'économie réalisée dans le cadre de ces deux actions sera placée dans un compte séquestre. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalsebe Paimi Debe, se réjouit du dénouement de la crise.
Chaque camp a pris sur lui de faire prévaloir l'intérêt des enfants tchadiens privés d'une rentrée scolaire sereine, l'intérêt de la population qui n'a pas accès depuis plusieurs mois aux soins de santé, faute de praticiens qui ont déserté nos formations sanitaires. À partir de ce jour, nous avons tous pris l'engagement de ne parler de la grève qu'en termes de mauvais souvenirs.
Parler du débrayage en termes de mauvais souvenirs dans cette condition, ce n'est pas évident, car ce protocole d'accord a été signé sous pression. Selon les responsables de la plateforme syndicale revendicative, le gouvernement menace de ne pas payer le salaire aux fonctionnaires pour les 3 derniers mois. Connaissant le comportement du gouvernement de Déby, qui tourne souvent les travailleurs en bourrique dans leurs revendications, le président du Conseil national du dialogue social, Ali Abbas Cheiti, émet déjà des inquiétudes.
Je crains fort qu'à une autre occasion, on risque de répéter les mêmes choses. Il faut que tous en prennent l'engagement d'aller dans ce sens pour qu'on arrive très rapidement à assainir la situation et ramener la masse salariale à sa dimension juste.
Cet accord est le deuxième du genre que la plateforme syndicale revendicative a paraffé avec le même gouvernement en moins d'un an. Alors, ce protocole d'accord n'est-il pas un accord de dupe? Réaction du porte-parole de la plateforme syndicale, Barka Michel.
Si le gouvernement ne respecte pas cet accord dans un mois, nous on va revenir à la charge. Il reviendra au gouvernement de nous montrer que ce n'est pas un dupe. Mais nous, on est vigilants.
La suspension de la grève est un ouf de soulagement pour des milliers d'enfants tchadiens qui aspirent regagner les bancs de l'école. Mais les travailleurs, quant à eux, sont pessimistes. Car l'accord lui-même stipule en son point 6 que le gouvernement s'emploiera à obtenir une audience auprès du président de la République après la reprise effective du travail pour un échange constructif afin de permettre à la plateforme syndicale revendicative de faire le plaidoyer de ses revendications. Ce qui présage que la crise n'est pas encore totalement décrispée. André Kodmadjingar N'Djamena, VOA.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon a fait de la lutte contre la corruption une priorité. Plusieurs députés ayant servi sous le régime de son prédécesseur Yayi Boni ont été privés de leur immunité parlementaire. Pour beaucoup, cela ressemble plus à une traque politique, selon Ginette Fleur Adandé, correspondante de VOA Afrique à Cotonou.
Tolérance zéro face à la corruption dans toutes les sphères de la gestion publique. C'est le slogan qui justifie un remue-ménage terrible au sein de l'administration publique béninoise. Bien de directeurs de sociétés publiques ont perdu leur liberté du jour au lendemain. Dernièrement, des députés de la minorité parlementaire ont perdu leur immunité à la demande de l'exécutif afin de répondre à des charges qui pèsent contre eux dans certains dossiers datant de la gouvernance Yayi Boni. Au sein de la population, les avis restent partagés. Pour certains, il était temps que la lutte contre la corruption quitte la théorie pour la pratique.
Si quelqu'un a volé ce pays, il n'a qu'à le répondre.
Moi, j'étais content lorsque j'ai attendu ça. Parce que nos dirigeants, ils ont l'habitude de jeter notre argent par le fenêtre.
Tout ce qu'ils ont volé là, ils n'ont qu'à payer.
Donner un coup de pied dans le nid de la corruption, oui, mais surtout pas de cette façon, pensent d'autres, pour qui le gouvernement n'est pas si blanc pour oser engager une lutte contre l'impunité.
Qui vient lever l'immunité de qui? La charité bienveillante commence par toi. Il a encore d'abord nettoyé nettoyer là, il est d'abord, avant de nettoyer les autres.
Qui est propre et qui veut dénoncer qui? Nous sommes dans ce pays, il y a des choses plus importantes auxquelles il doit s'atteler, il ne le fait pas.
Après le vote qui a ôté l'immunité des trois députés, leur collègue acquis à la cause de l'exécutif contre les accusations explique que c'est une chance qu'il leur a offerte afin de laver leur nom. Arden Aladati.
Lever l'immunité parlementaire ne veut pas dire dépouiller le député de son mandat de député. Et de quoi nous voulons parler? Que parce qu'on est de l'opposition, de la minorité, on doit se soustraire à la justice.
Dans le camp des députés de la minorité parlementaire, on dénonce un acharnement du pouvoir à faire taire toutes les voix capables de le contredire. Le camp du chef de l'État serait truffé de députés ayant des dossiers sales. Guido Soumi Topé.
Au nom de quoi allons-nous lutter contre la corruption aujourd'hui alors qu'il y a des députés dans ce pays? Lorsque vous dites leur nom, c'est le synonyme de certains matériaux que tout le monde connaît. C'est une traque politique.
L'élection du président Patrice Talon portait bien d'espoir, déçu après 2 ans de gestion. Il est reproché à l'homme d'affaires une continuité dans la gestion dégradante du régime défunt. Une partie de la population béninoise dénonce le clientélisme et la braderie du pays au profit du chef de l'État et de ses plus proches collaborateurs. Les marchés passés entre les sociétés du président et l'État sont pointés du doigt. Pourtant, dans son dernier discours sur l'état de la nation, le chef de l'État est revenu sur sa détermination à enrayer la corruption du Bénin.
Il est d'autant plus nécessaire que la corruption atteint depuis de longues années maintenant un seuil insupportable et constitue un frein à l'essor économique de notre pays. Aussi, l'impunité qui en assure la perpétuation ne doit-elle plus avoir droit de cité au Bénin?
Le président Patrice Talon pourrait-il en finir avec la corruption au Bénin? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Les mots d'opératoire face à la détermination affichée par le chef de l'État contre la corruption changent et le mal revient au devant de la scène avec virulence. De Cotonou, Ginette Fleur-Adondé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Fin hier à Brazzaville, des assises de la presse congolaise qui ont réuni du 25 au 28 octobre des journalistes et des professionnels et experts de la communication pour réfléchir sur l'avenir des médias dans ce pays. La question du financement de la presse a été au centre des débats, selon Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Il s'agit de faire le point 26 ans après la tenue des premiers états généraux de la presse congolaise. Des médias de la débrouillardise et des journalistes vivant dans la précarité n'hésitent pas de commenter les consommateurs et même les professionnels de l'information eux-mêmes. C'est pourquoi Philippe Mouveau, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, a voulu que ces assises de la presse se tiennent.
L'arrivée des nouveaux médias, il va de soi que le système de diffusion, le système de fonctionnement, même administratif des médias, a totalement changé et commande aujourd'hui une nouvelle manière, un nouveau management des médias. Et c'est ce que nous voulons justement faire. Or, nous avons fait un constat sévère, mais vrai, qui dit notre réalité, nous ne l'avons pas caché. Notre système aujourd'hui est malade et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il faille apporter très rapidement des remèdes.
La question du financement de la presse congolaise par les pouvoirs public a été fondamentalement abordé au cours de ces assises. André Barry, directeur de publication de Paris Africain, est hebdomadaire paraissant à Brazzaville.
La presse en général, et nous vivons dans la précarité. Et ces assises sont les bienvenues et nous pensons trouver la solution au sortir d'ici.
Il faut que l'État budgétise désormais l'aide à la presse, appelle Edouard Adzotsa, journaliste à la retraite, aujourd'hui responsable du syndicat de la communication.
Étant donné que les médias ont un rôle de sensibilisation, de formatage des consciences, je crois que l'État devrait prendre le relais en les aidant. C'est une obligation. Il ne faut pas voir que non, parce que c'est commercial ou c'est comme ça. Non, 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 justement, à travers des mécanismes. Il ne s'agit pas de jeter de l'argent, non, il s'agit d'aider les médias qui répondent aux critères.
Malgré les critiques, Clotaire Yimbou de l'Association des éditeurs de presse reconnaît les avancées significatives réalisées par la presse congolaise.
En un premier temps, un club de la presse libre qui a permis d'obtenir un centre de formation post-universitaire, ça c'est quelque chose d'important. Nous avons pu obtenir au niveau des associations la convention collective des journalistes du secteur privé.
Quoi qu'il en soit, la presse connaît encore de nombreux défis, notamment celui lié à la migration vers la numérisation. Idriss Bosoto est formateur en journalisme 2.0.
Au niveau des médias publics, c'est encore plus complexe parce que la migration en ligne suppose l'adoption de nouveaux métiers. Alors que nous savons que dans nos médias traditionnels, les nouveaux métiers ne sont pas encore intégrés et les nouveaux métiers ne sont pas encore adoptés.
Le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mongala, a souhaité que les journalistes s'approprient très rapidement les recommandations issues de ces assises. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Burkina Faso, 15e édition du CAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, un salon qui réunit des centaines d'exposants et des milliers de visiteurs. Déjà, les artisans ont commencé à faire de bonnes affaires. Reportage sur place de Lamine Traoré, correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou.
Les pavillons Soleil Levant et Kilimand Diarro, deux des cinq grands pavillons d'exposition du CAO 2018. Plusieurs produits artisanaux sont exposés. Des sacs, des chaussures, des bijoux, des habits. Tout y est pour attirer et séduire les visiteurs. Mariam Kone, une visiteuse.
Je suis venue prendre du savon noir marocain. C'est naturel, c'est 100% bio. C'est très bon pour la peau. Oui, c'est abordable. L'unité fait 2000 francs. Alors qu'ici, on le prend sur le marché, parfois même à 5000.
Les affaires semblent déjà marcher pour les exposants. Eric Logosu est togolais. Sa spécialité, les chaussures en cuir.
Cette année, nous avons amené spécialement rien que des créations de 2022 et de 2023 pour le Burkina Faso. Nos produits ont été confectionnés par des artisans togolais, c'est-à-dire des travaux à la main, des différents sortes des animaux. Nous prenons leur cuir, nous confectionnons pour monter des chaussures en cuir. Bon, ça va, on ne se plaint pas. On a encore le courage de l'espoir.
Draman Sabadogo est artisan burkinabé. Il a plusieurs articles dans son stand.
On fait des poufs à base de pneus. De nous, je parle beaucoup plus de recyclage, qu'on recouvre avec des pains. Donc, on a quatre salons, plus une table principale. On a aussi des colliers faits à base de pierres précieuses. Donc, on essaie à notre niveau, notre humble niveau, voilà, de freiner plus ou moins le réchauffement climatique à travers le recyclage des objets tels que le pneu. On a commencé d'abord par le pneu. On espère que demain, on va aller encore avec les chambres. Parce que si on a d'autres idées, mais pour le moment, on commence d'abord avec les pneus. Mais avec le soutien des Burkinabés, s'ils adhèrent à l'idée, on pourra également aller faire autre chose, quoi. Mais c'est tout doucement pour le moment.
Le CAO 2018, c'est plus de 550 stands, un fort engouement. Le ministère de l'Artisanat a dû en rajouter une centaine pour satisfaire les exposants. Haruna Kabore, ministre burkinabé de l'Artisanat.
C'est une forte délégation et les pays ont répondu présent. Ils sont venus au CAO avec leurs artisans, avec une forte délégation. On a dû rajouter une centaine de stands. Non, c'est une très bonne chose. Ça montre que la destination Burkina Faso est toujours la bonne destination quand il s'agit de l'art africain. Ça montre qu'il y a une solidarité africaine. Quant aux différents événements qui s'organisent un peu, ça montre que le monde est ouvert parce que nous avons des communautés qui arrivent ici au-delà de l'Afrique. Ça montre que l'artisanat est quelque chose qu'il faut continuer à soutenir.
27 pays africains, plus de 250 acheteurs professionnels et des centaines de milliers de visiteurs prennent part au Salon de l'artisanat à Ouagadougou cette année. Ce cadre commercial et d'exposition d'objets artisanaux de tous les continents se déroule chaque deux ans au Burkina Faso depuis 1988. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.